Chapitre 10. Philippe de Champaigne. Crois toujours les miracles possibles. Sacrifiant au rituel de ce début d'année, le docteur Van Horst présenta ses meilleurs vœux à Mona et à sa mère. Il ne parla pas de santé, en revanche. Il constata aussi que cela faisait plus d'un mois et demi qu'il n'avait pas examiné l'enfant. « Une éternité !» grommela-t-il. L'atmosphère tendit Mona. Dès que le médecin voulait observer son œil, elle voyait ses sourcils se froncer sous l'effet de la concentration et, par mimétisme, elle crispait son visage, ce qui ne facilitait pas l'inspection. Elle n'ignorait pas, malgré les silences des adultes, qu'une nouvelle dramatique définitive pouvait tomber à tout moment. Voilà déjà deux bonnes minutes qu'elle se contorsionnait sans parvenir à rester en place, toute vibrante de peur. « Pense à autre chose », lui suggéra Van Horst en prenant son ton d'hypnotiseur. « Quel ressort secret, niché quelque part dans le cerveau, permet donc de penser à autre chose ?»« autre chose », songeait Mona. Elle parvint finalement à se lancer dans cette étrange aventure cérébrale, en actionnant un levier abstrait qui bombarda en rafale toute une série d'images à la surface de son imagination. Les petites figurines trouvées chez son père, puis l'image de Jade en train de grimacer, puis le ricanement de la bohémienne de Franz Hals, puis la cicatrice de Dadé, puis les cheveux de Guillaume. Son esprit ne se fixait sur rien, et cette instabilité intérieure la poussait, par réflexe, à faire le point avec son œil, jusqu'à ce que le souvenir d'un ballon lourd et poisseux qui l'avait frappé à la tempe dans la cour de récréation vienne définitivement lui faire si mal que ses paupières en furent clouées. La méthode du docteur Van Horst n'avait donc pas marché. Camille, qui voyait sa fille lutter pour se prêter à l'examen et qui voulait en finir au plus vite, se mit soudain à détester le médecin. Et elle se détesta de le détester. Elle voulut intervenir, mais au premier son de sa voix, Mona l'arrêta d'un geste sûr et mûr, signifiant « Attends !» Alors la petite fille prit une grande bouffée d'air et se résolut à se contrôler physiquement, non en se fixant sur une pensée rassurante, mais en étant, par elle-même, ferme et droite. Le docteur Van Horst put enfin plonger sa lampe de diagnostic pour traquer les moindres détails de la pupille. Détachée mélancoliquement de son corps, flottante, Mona ne saisit qu'une seule bribe de dialogue entre sa mère et le docteur. C'est du 50-50. Au moment d'entrer au Louvre avec son grand-père, Mona était morne, empreinte des doutes du médecin. Henri, qui connaissait chacune de ses expressions, se montrait à la fois attristée et attendrie par sa tête basse et ronde. Elle lui faisait penser à Calimero, ce personnage dont la coquille fendue sur la tête coiffe tel un chapeau un visage percé de deux yeux immenses. Pour Calimero, seul rejeton noir d'une portée toute jaune, la vie est vraiment trop injuste. Et la moue de Mona, ce mercredi-là, respirait cette fatalité. Il attrapa la petite dans ses bras, comme un enfant étreint trop fort un chaton, ce qui n'était absolument pas dans ses habitudes. Elle en fut tout étourdie, mais heureuse, de nouveau prête à parcourir les galeries du musée. Henri n'en demeura pas là. Fort de son expérience des êtres en général, de Mona en particulier, il décida de prolonger le voyage en terre de classicisme de la semaine passée. Il serait cette fois moins arcadien et plus sévère. C'était deux religieuses en prière. Elles se tenaient dans un espace au ton gris, avec un plancher de bois et des murs en partie lézardés. Il s'agissait plus exactement de l'angle d'une cellule, simplement habillée sur le côté droit d'une croix massive dépourvue de Christ. À son aplomb, était peinte avec délicatesse et précision une femme plutôt jeune, mi-assise et mi-allongée. Elle avait en effet le dos calé dans une chaise, mais ses jambes s'étalaient de tout leur long à la perpendiculaire du bassin, avec l'aide d'un repose-pied surmonté d'un coussin bleu. On ne pouvait toutefois que les deviner, car hormis les mains jointes en prière, mais pointant vers le sol, et l'ovale du visage, ce personnage était tout entier recouvert d'une tenue grise, dotée d'un scapulaire sur lequel rougeoyait une grande croix cousue. Habillée de manière parfaitement semblable, la seconde femme, âgée, celle-là, était agenouillée à ses côtés. Elle aussi priait et souriait légèrement. Les deux personnages se trouvaient comme douchés par un faisceau lumineux dont la ligne de gauche courait jusqu'au menton de la plus vieille et la ligne de droite jusqu'à un objet posé sur les genoux de la plus jeune, un reliquaire ouvert. Sur le côté gauche du tableau était peint un long texte en latin commençant par ces mots « Christo uni medico animarum et corporum ».
Déjà la semaine dernière, tu m'as emmené voir un tableau en latin d'Adé,
lança Mona après 12 minutes de contemplation.
Ce n'est pas une raison pour te reposer,
s'amusa Henri. Je vais traduire pour toi. Ô Christ, l'unique médecin des âmes et des corps.
Moi, j'ai le docteur Van Horst,
sourit-elle.
Et aussi mon psy. Mais ça, c'est notre secret.
C'est notre secret, oui. Et bien gardé, j'espère.
Juré sur ce qu'il y a de plus beau sur terre, Dadé.
Bien dit.
Cette fois-ci, nous sommes en 1662.
Et c'est le début du long règne de Louis XIV. Un monarque animé par une foule d'ambition et de désir, il marqua un temps, souvent contradictoire. Car le roi Soleil souhaite sincèrement l'épanouissement des arts et des savoirs. Il fonde et développe des académies pour les sciences, pour les lettres et pour la peinture. Il passe en abondance des commandes d'œuvres, grâce auxquelles il va montrer qu'il est le roi le plus important de tous les temps, et que la France est un grand pays héroïque, prestigieux, rayonnant. Or, parmi les artistes qu'il aime, il y a l'auteur de cette toile qui s'appelle Philippe de Champaigne.
C'est lui qui a demandé à l'artiste de faire ce tableau, alors ? Est-ce que tu le trouves bien, toi ? Moi, j'ai l'impression que tout est plutôt gris.
Non, ce n'est pas Louis XIV. C'est un peu plus compliqué. Mona fronça les sourcils. Je te disais à l'instant que c'était un roi plein de contradictions. Au-delà de son inclination pour les arts, c'était un monarque sans partage, un monarque absolu, prêt à tout pour éviter la moindre ombre à son prestige. Je vais te donner un exemple. Louis XIV avait un ministre du nom de Nicolas Fouquet, un homme qui s'était immensément enrichi et était devenu un puissant mécène. Ce Fouquet fit construire un château à Vaux-le-Vicomte, où il accueillit tant de somptuosité, tant de fêtes incroyables et tant de créations artistiques, que cela finit par concurrencer les fastes de la couronne. Le roi s'en trouva dévoré de jalousie. Il ordonna qu'on capture Fouquet, il l'expédia devant un tribunal et le verrouilla dans un cachot jusqu'à la fin de sa vie.
Tout ça parce que c'était plus joli que chez lui ? Mais il est terrible, ce roi d'Adé.
Eh oui, c'est cela l'absolutisme. Vois-tu, ce tableau est de 1662. Philippe de Champaigne le réalise quelques mois après l'arrestation de Nicolas Fouquet. Or, l'action de la toile se déroule dans un lieu qui n'est pas si innocent qu'il en a l'air. Un lieu qui, à sa manière, comme le château de Vaux-le-Vicomte, narguait le tout-puissant Louis XIV.
J'ai reconnu Dadé. C'est un couvent. On a l'air d'y faire autre chose que la fête.
Il s'agit plus précisément de l'abbaye de Port-Royal, située sur la rive gauche de la Seine. Cette abbaye, Louis XIV la craignait. Il ne l'aimait vraiment pas du tout.
Mais pourquoi le roi aurait peur d'un endroit où on fait des prières ? Les bonnes sœurs sont gentilles en général. Ici, il y en a une qui est vieille et une autre qui est allongée. On dirait même qu'elle est malade.
Elle l'est, tu as raison. Mais si Louis XIV les craignait, c'est parce qu'elles avaient des idées qui ne lui plaisaient pas.
Elles
elles avaient adopté la doctrine d'un théologien nommé Jansénus. Celui-ci était mort en 1638, précisément l'année où est né Louis XIV. Ce Jansénus professait qu'il fallait s'en remettre presque exclusivement à Dieu et ne croyait pas au pouvoir des humains, ni au fait que quiconque ait vraiment la possibilité de décider de faire ce qu'il souhaite, ni à l'exercice de la souveraineté d'un être humain sur un autre être humain. Tu dois donc imaginer combien Louis XIV et les rois qui lui ont succédé se sont méfiés du jansénisme. Ils en avaient peur, parce que cette doctrine, d'une part, se fondait sur une autorité religieuse, et d'autre part, refusait son incarnation politique en la personne du roi. Pour un monarque, c'était une forme d'opposition intolérable qu'il fallait donc contester, intimider, voire persécuter. En d'autres termes, ces religieuses préféraient Dieu au roi. Il fallait du courage pour être janséniste sous Louis XIV. Et cette vieille femme à gauche en train de prier, je parie que c'était la chef. Cette vieille femme s'appelait Mère Agnès Arnaud. Et elle a en effet dirigé l'abbaye de Port-Royal. Et regarde, c'est comme si nous étions plongés au cœur de la cellule avec les deux religieuses. Sur la discrète chaise en bois et en paille à droite, il y a un livre de prière. Tu pourrais presque venir t'y asseoir et communier avec elle en te glissant juste à côté de celle qui est allongée. L'artiste était à côté d'elle quand il les a peintes ? Non, car il ne pouvait pas entrer dans le couvent. Mais il connaissait très bien son jeune modèle, car cette religieuse allongée, qui s'appelait Catherine, c'était sa propre fille. Ce visage pâle et humble de femme malade, c'était donc la chair de sa chair. L'artiste avait alors 60 ans. Philippe de Champaigne avait déjà peint pendant sa longue carrière les hommes les plus importants, les plus illustres. Il fut par exemple l'unique artiste en droit de portraiturer Richelieu dans ses habits de cardinal. Eh bien pour cette fois, cet artiste des princes et des puissants peint ce qui compte le plus au monde, ce qui lui est le plus précieux, sa tendre fille qui vit à l'écart de tout dans le couvent janséniste de Port-Royal. Ah, tu veux dire qu'il la voyait très peu, c'est ça? Alors il avait besoin de la peindre pour se sentir avec elle? C'est une belle hypothèse, mais l'histoire est un peu plus dramatique. À l'automne 1660, sans qu'on sache précisément la cause de son malheur, elle sentit soudain le côté droit de son corps se tétaniser et la déchirer de douleur. Elle ne pouvait plus marcher et souffrait continuellement. Elle était ainsi devenue à 24 ans une infirme. Quand son père Philippe se rendait au parloir du couvent pour échanger quelques mots avec elle, les religieuses la portaient comme un enfant et aucun remède n'y faisait rien. Dans le tableau, la raideur des membres allongés et cloués sur le repose-pied rappelle cette paralysie à laquelle les médecins de l'époque n'avaient malheureusement aucune réponse. « Oh, la pauvre ! C'est si injuste !» Henri marqua un silence. Il faillit dire à Mona que souvent les médecins se trompaient, qu'on imposa même des saignées à cette pauvre sœur Catherine et qu'on aggrava ainsi son cas sans le savoir. Mais il préféra reprendre son récit. « Oui, mais regarde, Mona, regarde ce ray qui tombe sur les deux personnages. C'est ce que les chrétiens considèrent comme un moment de grâce, comme si deux lumières cohabitaient dans le tableau, celle de notre univers, par laquelle les choses sont visibles, découpent les volumes et les couleurs dans l'espace, les robes ivoires des religieuses, la minéralité des murs ou le brun des chaises, et la lumière d'un autre univers, inconnu et supérieur. Le moment de grâce pour un chrétien, c'est au fond quand cette seconde lumière d'origine divine s'immisce dans le jour des humains. Et toute la peinture chrétienne est confrontée à ce défi. Il s'agit de faire tenir ensemble, dans une œuvre d'art, de façon cohérente et persuasive, ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Mais qu'est-ce qui se passe de surnaturel ? Eh bien, tandis qu'avaient capitulé les médecins et que tout semblait perdu,
la fameuse mère Agnès à gauche, voulut croire que l'on pouvait encore sauver ce corps. Elle multiplia les prières pour Catherine. Elle sonna la charge spirituelle. Et c'est à l'une de ces prières que l'on assiste ici, le 6 janvier 1662 précisément. Et alors, Dieu est arrivé ?
Oui.
C'est ce qui est exprimé ici. Et il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour trouver cela admirable. Oui, cette réponse, matérialisée ici par une douce radiance, constitue le miracle attendu. Le lendemain, le 7 janvier, Catherine sentit son corps reprendre vigueur. Au cours de la messe, elle se dressa, marcha, s'agenouilla d'elle-même. Averti du miracle, Philippe de Champaigne en devint fou de bonheur. Et il commença sur le champ ce tableau qu'il qualifia d'ex voto, c'est-à-dire d'offrande faite à Dieu, en signe de remerciement.
Mais, Dadé, moi je pense qu'il aurait dû peindre ce qui s'est passé le 7 janvier à la place du 6. Ce qui est magique, c'est le moment où sœur Catherine se remet à marcher. Tu es d'accord ?
Tu aurais été une formidable artiste de l'époque, et ton sujet aurait été parfait. Mais, sans vouloir te vexer, ce traitement aurait été un peu attendu. Parce qu'on exige souvent de la peinture qu'elle montre ce qu'il y a de plus spectaculaire et édifiant. Or, précisément, Philippe de Champaigne prend cette règle de cours à rebours de ce qu'il fait d'habitude. Il choisit la subtilité en montrant un instant extrêmement modeste, dépourvu de couleurs, à l'exception des nuances de gris, de blanc et de noir. Cette retenue exprime l'esprit de soumission à Dieu, cher aux jansénistes. Elle contraste avec les fastes de la propagande monarchique de Louis XIV.
Il faut toujours croire au miracle, hein, Dadé ?
C'est le sens de ce tableau, Mona. Et j'ajouterai que ce qui y est encore plus beau, c'est que c'est Agnès qui y a cru pour Catherine, et non Catherine qui y a cru pour elle-même. Mona joignit les mains et les leva au ciel en riant, comme si elle parodiait une prière de circonstance, avant de regarder à nouveau le tableau sans avoir desserré les paumes.
« Et Dadé, quel est cet objet sur les cuisses de Catherine ?»«
Ah, bien observé. On ne le sait pas exactement. Le texte peint en latin sur la gauche de l'œuvre raconte l'histoire de Catherine, mais ne dit rien à ce sujet. C'est certainement une petite boîte, dans laquelle se trouvait conservée une relique. Par exemple, un morceau de la couronne d'épines de Jésus, du moins, le croyait-on, à laquelle étaient attribuées des vertus de protection et de guérison. Henri savait parfaitement que la relique en question avait l'insigne réputation d'avoir suscité un autre miracle, quelques années avant celui de Catherine. Au contact de l'épine christique, la nièce de Blaise Pascal avait pu réparer les lésions d'un œil malade en 1656. Mais Henri ne voulait pas raconter cette histoire à sa petite-fille. Il en jugeait l'écho trop direct avec la sienne. Mona, quant à elle, détacha ses mains l'une de l'autre et par ce réflexe qu'elle avait si fréquemment, attrapa son pendentif et le serra fort, très fort, comme si elle avait voulu l'étouffer.